Salut les auditeurs et auditrices, ça fait bientôt un an que les podcasts Réponse de mec et Réponse de meuf ont été adaptés en spectacle. Un spectacle interactif qui se joue tous les samedis à 18h à la Divine Comédie, c'est un théâtre à Paris. Ce spectacle, c'est l'occasion de prolonger les débats, d'étendre les discussions, d'exposer et d'écouter plein de points de vue sur vos questions et évidemment de se marrer. On finit la saison le 27 avril, ça veut dire qu'il faut que vous preniez vos places pour un des derniers samedis qui restent. Le lien est dans la description et au pire, faut taper Réponse de mec dans Billets Réduc. Profitez-en, hein. Les places sont vraiment pas chères et surtout, c'est les dernières. Après, c'est fini. Allez, je vous laisse avec votre épisode. Bonne écoute et à samedi.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie.
Salut Pascal, salut Dan.
Salut
Dan.
Yo. Hello, hello.
Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations hommes-femmes en posant à chaque nouvel invité des questions que beaucoup se posent et n'osent pas forcément aborder. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur www.lesgentilshommes.fr, sur toutes les applis de podcast, mais aussi sur SoundCloud, YouTube. YouTube étant parfait pour laisser des commentaires qui nous permettent de prolonger le débat. On compte sur vous pour laisser tout
allez-y.
Un tas de commentaires.
Ouais.
Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram et Facebook. Tapez les gentilshommes dans les moteurs de recherche et suivez notre logo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sujet de la mort.
Ouais.
On va pas dire d'autres mots puisque c'est
le décès.
Le décès.
Ouais. Le deuil.
Le deuil aussi. Ouais. Voilà. Donc avec notre invitée Noémie. Salut Noémie.
Hello.
Salut Noémie.
Bonjour. Alors,
hello.
Dis-nous un peu qui es-tu.
Alors, je suis une jeune femme de 33 ans qui répond au gentil surnom ou alias de veuve noire, voilà.
Ah ouais,
ah ouais, carrément.
On n'était pas prévenus.
Il va falloir que tu nous expliques.
Alors, Noémie, la veuve noire, tu as été confrontée à la mort
ouais.
De façon un peu prématurée, on va dire.
Ouais.
Tu peux nous raconter un petit peu ? Tu nous racontes dans les grandes lignes ?
Alors, justement, je vais y venir, mais je tiens juste à préciser que c'est veuve noire dans le sens, non pas que je tue mon ex-compagnon, mais c'est plutôt dans le sens où c'est une femme, en fait, qui perd de façon tragique ses petits amis. Et donc, en fait, donc, la petite pépite, c'est que j'en suis à 4.
Non.
Voilà.
4.
Ah, pardon, parce
t'as
que
ah ouais.
T'as perdu 4 petits amis.
Donc, 4 ex-compagnons, en fait, 4 personnes avec qui je suis sortie, qui, à ce jour, sont décédées.
Oh.
Et donc, 6 au total, avec 2 autres qui ont souhaité sortir avec moi, mais que j'ai gentiment éconduit, voilà. Donc c'est mon petit, ma petite mythologie personnelle, en fait.
Ah ouais.
Tu portes la poisse, non?
Quand on se met sur les rails, faut s'accrocher, quoi.
Voilà, donc c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant, finalement, d'en parler, parce que la réaction face aux autres hommes qu'on rencontre, elle est assez intéressante par rapport à ça, mais je pense qu'on en parlera par la suite, quoi.
Alors vas-y, reprends depuis le début. Et
donc voilà, donc effectivement, moi j'ai été confrontée prématurément à la mort d'un de mes compagnons, donc puisqu'évidemment j'en ai eu plusieurs qui sont décédés, mais ça nous impacte, enfin moi ça m'a impacté en fait différemment, évidemment. Et donc il y a vraiment un compagnon avec qui j'avais planifié entre guillemets de faire ma vie qui est décédé subitement dans un accident de la route, donc on est sur une mort violente. Et puis pas de préparation, si je puis dire. Alors j'entends par là qu'il y a certains cas de décès où on peut plus ou moins sentir les choses venir. Je pense par exemple aux gens qui sont atteints de maladies où on les voit s'éteindre progressivement. On peut plus ou moins, même si on n'est jamais vraiment préparé, s'attendre à ce qui va se passer, quoi. Là, dans le cas de l'accident, en gros, bon, bah, le matin, on dit bonne journée à son copain, à un compagnon, et puis, en fait, dans l'après-midi, on apprend qu'on lui dira plus jamais bonjour, quoi. Donc, c'est assez violent à recevoir comme nouvelle, quoi.
Ce garçon-là, t'étais avec lui depuis longtemps, hein, c'était ton premier
amour.
Ouais,
alors en fait.
T'étais avec quel âge aussi?
Donc, moi, quand c'est arrivé, j'avais 23 ans, lui en avait 21, il était un petit peu plus jeune que moi, et on s'est rencontrés, j'en avais 18. Donc en gros notre histoire elle s'est étalée sur 6 ans en discontinu, donc on a eu des périodes en on-off, enfin voilà, c'était assez mouvementé. Et donc, le décès est intervenu dans une phase dite, ce que j'appelais de négociation, de séparation négociée. Donc, ce qui implique d'autres paramètres un peu plus compliqués. Voilà, aussi,
c'est-à-dire une séparation négociée, ça consiste en quoi ?
Donc, en fait, on était arrivé à une phase de notre relation où on avait connu la fusion. Et moi, je commençais à étouffer un peu dans ce schéma-là de relation. J'avais besoin d'avoir un peu plus d'espace dans la relation. Et en fait, on a très mal transitionné le virage relationnel. Parce que lui, malheureusement, a pas suivi le mouvement. Donc, on s'est retrouvés où on s'est graduellement éloignés l'un de l'autre. Et donc, j'ai dû, à un moment donné, m'extraire, en fait, de la relation parce que j'arrivais plus à gérer. Je trouvais pas d'autres ressources. Puis, on était assez jeunes aussi, donc c'était pas évident.
Est-ce que ça veut dire que quand il est décédé, t'avais moins d'affect ou est-ce que ça a changé quelque
chose ?
Pas
du tout, parce qu'en fait, on avait donc fait un essai à nouveau pour se remettre ensemble et en fait, on voyait que ça ne fonctionnait toujours pas et on s'est dit, en fait, on a encore besoin de temps parce qu'on était très très mauvais, parce qu'on était vraiment empreint d'ego l'un et l'autre. Mmh. Et donc, on a pris énormément de temps avant de comprendre les leçons et on s'est dit, en fait, on a vraiment beaucoup trop de choses encore à épurer de notre côté, donc on va vraiment prendre cet espace chacun de notre côté. Tu m'aimes, je t'aime, on le sait, ça c'est bon, on sait que de toute façon on va finir notre chemin ensemble. Maintenant, moi je lui ai dit, écoute, c'est bon, j'ai eu des relations entre temps, je sais que c'est toi, je sens que toi t'as encore besoin de faire un petit peu le tour des meufs, le tour de la terre, vas-y, prends ton temps et puis tu reviendras quand tu seras posé et quand tu seras calmé, quoi, voilà, quand tu seras prêt. Donc ce qui implique qu'au moment où il est décédé, il était en relation avec une autre jeune femme, mais ça faisait partie du deal, je le savais, il m'en avait parlé, et donc pour répondre à ta question, non, ça veut pas dire que justement on est plus éloigné émotionnellement, puisque moi je l'avais vu la semaine avant qu'il décède, et je le voyais continuellement, donc on était encore en relation, quoi. Donc non, l'implication émotionnelle est toujours aussi intense, quoi.
Et alors, comment la relation avec ce garçon a évolué après sa mort ? Je vais dire, c'est un fait un peu bizarre, c'est devenu un truc intérieur, c'est comment ?
Ouais.
Raconte-nous un peu.
Alors en fait, évidemment, la relation, elle continue d'exister, ouais. Même si la personne, elle est plus là. Le lien, il est toujours très présent de façon intérieure. Mais aussi, il continue d'exister de façon extérieure, puisque, alors là, je vais parler en mon nom, parce qu'évidemment, chacun réagit différemment, il y a des gens qui vont se murer dans le silence, mais moi, j'ai eu énormément besoin d'en parler au départ, donc j'ai passé beaucoup de mois à échanger, que ce soit avec la famille, avec sa famille, avec la mienne, avec des amis, avec qui je pouvais... parler de ce sujet-là.
Ça consiste en quoi, parler, échanger ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire se raconter des souvenirs,
Ça veut dire se raconter des souvenirs, ça veut dire aussi parfois recevoir des jolies pépites où en fait on a des questions, puisque quand la personne part soudainement comme ça, nous on était en mode histoire inachevée, quoi. Donc il y a des questions qui étaient en suspens également. Peut-être aussi parfois on est empreint de doute parce qu'on se dit, bon, est-ce que vraiment j'ai pris la bonne décision ? Est-ce que vraiment il m'aime ? Est-ce que vraiment le lien il va tenir assez fort pour qu'on puisse se retrouver ? Est-ce qu'entre-temps il va pas rencontrer quelqu'un d'autre et puis je vais le perdre définitivement ? Et en fait, en échangeant avec la famille, on a des réponses à nos questions parfois. Donc en fait, chacun va apporter des lumières différentes en fait sur la personne qui est décédée. Donc soit on va le découvrir, soit on va le redécouvrir. On va apprendre des choses qu'on connaissait pas. Et puis en fait, toutes les visions qu'on a de cette personne-là se complètent. Et puis on recrée un autre être. En fait, c'est très intéressant parce que on le connaît tous sous des aspects différents finalement. Cette personne-là. Donc c'est ça qui est super sympa et ça permet de perpétuer le lien en fait qu'on a à la personne, quoi. Voilà.
Alors, tu étais toujours proche de sa famille d'ailleurs ou...
Non, alors on a pris de la distance. Maintenant si je la croise
ça
demain.
Ça fait 10 ans maintenant, c'est ça ?
Ouais. Si je la croise demain dans la rue, il n'y a aucun souci. On se parle, on se dit bonjour, ça m'arrive de temps en temps. Mais maintenant, pour essayer aussi de permettre à l'autre de reconstruire sa vie, par respect pour l'autre, on essaye de pas trop intervenir. Donc il y a eu une période du deuil dans les débuts, dans les premiers temps, où on a été beaucoup en contact. Et puis, progressivement, évidemment, on prend un peu de distance. Voilà, tout simplement, c'est vraiment question de respect. Alors après, des fois on a un peu le doute, on se dit est-ce que je vais pas raviver des mauvais souvenirs, donc on n'ose pas toujours finalement aller vers les autres, mais en fait ça leur fait vachement plaisir. Enfin moi je me suis rendu compte que ça leur faisait beaucoup plaisir de me voir de temps en temps, et voilà donc.
Et t'as parlé avec ta petite copine sa dernière petite copine, t'as échangé avec elle ?
Alors oui, en fait, j'ai été plus ou moins contrainte, on va dire.
Ouais.
Puisque, en fait, donc, avant qu'il décède, il a eu quelques jours de coma. Et en fait, la question qui se posait pour moi, c'était la question de la légitimité. Parce qu'en fait, j'avais pas tellement d'informations au départ sur l'accident. Je l'ai appris par un ami commun à lui et à moi. Et on avait des doutes au départ sur l'identité de la personne qui était impliquée dans l'accident, puisqu'en fait, il avait en réalité emprunté la moto d'un ami. Donc, on ne savait pas si c'était l'ami qui possédait la moto qui était impliqué dans l'accident, ou si c'était mon compagnon qui avait emprunté la moto.
Ah ouais.
Donc, au départ, il y avait un doute sur l'identité. Et bon, moi, j'ai très fortement senti qu'avec le bol que j'avais, malheureusement, c'était lui qui allait partir. Et effectivement, ça s'est précisé. J'ai dit, écoute, si t'as des informations, reviens et dis-moi, quoi. Et donc, il est revenu, il m'a dit, bah ouais, c'est lui, quoi. Et donc là, je me suis dit, mince, enfin, faut vraiment que j'en sache un peu plus. Et en fait, j'avais beaucoup d'appréhension à l'idée de retoquer à la porte de sa famille, parce que finalement, même si nous, on s'était redonné une chance, on n'en avait parlé à personne. Et ouais, ces gens-là,
pour
du coup, m'avaient pas vu.
Pour la famille,
voilà.
T'étais plus sa petite amie, quoi.
Exactement. Ouais. Donc, je me suis dit, est-ce que légitimement, on peut se pointer dans une famille comme ça qui est dans une situation hyper compliquée ? Est-ce qu'on peut retoquer à la porte comme ça, quelques années plus tard ? Coucou, salut, c'est moi. Je me suis dit, puis si c'est toutes ses petites amies commencent à toquer à la porte, en fait, ça va être le défilé, enfin, ça va être indécent, quoi. Donc, ouais. Et ouais. En fait, pas du tout. J'ai été vraiment agréablement surprise, et ça fait partie des petits moments de joie, si je puis dire, dans la traversée. Ouais. C'est quand j'ai toqué à la porte, c'est sa grand-mère qui m'a ouvert, et elle m'est tombée dans les bras et elle m'a dit « on t'attendait », quoi. Donc voilà, donc ouais. ça m'a vraiment fait un bien fou, et ça m'a vraiment apaisé, quoi.
Tu parlais qu'il y avait un nouveau personnage qui se construisait au fur et à mesure, au fur et à mesure des rencontres, des discussions avec les gens. Qui c'est ce personnage ? Est-ce que tu prends pas le risque de changer la mémoire que t'as de lui, de le magnifier par exemple, et puis après, quelle place il prend finalement dans ta vie ?
Alors effectivement, moi c'est un des travers dans lesquels je suis tombée, c'est que je l'ai figé dans de la feuille d'or, donc effectivement j'ai fini par tomber dans l'idéalisation du personnage, puisque c'est une des beautés de la mémoire, c'est qu'on efface et on gomme et on estompe les côtés un peu sombres et un peu noirs qu'on a envie d'oublier, et donc on n'en garde plus qu'une superbe image, et du coup en fait, bah, tout automatiquement, tous les hommes qui vont passer derrière n'ont aucune chance de rivaliser avec cet être exceptionnel, quoi. Donc,
ah ouais.
Donc voilà. Et puis surtout, pour moi, il a continué pendant des années d'habiter dans mon cœur, en fait. Donc je sentais que mon cœur était pris, et que pour moi, même si dans la vie de tous les jours j'étais célibataire, dans mon cœur j'étais en relation avec cette personne-là. Donc j'ai quand même vécu des histoires avec des hommes par la suite, mais en gros c'était voué à l'échec, puisque de toute façon je sentais qu'il n'y avait pas de place dans mon cœur pour ces gens-là, quoi.
Combien de temps il est resté, si on peut dire, ton compagnon après son décès ? Combien de temps il est resté vraiment avec une place comme ça ?
Je pense que là, au bout de 10 ans, j'en suis arrivée à la sortie, quoi.
Ouais.
Ouais. Mais c'est un processus qui est hyper long. Ça veut pas dire qu'entre-temps, on peut pas vivre d'autres relations. J'ai quand même vécu des belles choses, mais ça a pris du temps. Ça
ouais.
a pris du temps, et entre-temps, j'ai quand même vécu des trucs un peu cracra aussi, quand même, parce que ça fait partie d'un des risques, justement, de la traversée du deuil. C'est que... donc il y a un moment donné où je me suis retrouvée effectivement dans une phase d'idéalisation, et où j'ai réussi à atteindre un stade d'amour inconditionnel, puisque en fait le deuil m'a positionnée dans des situations où à un moment donné j'étais obligée de résoudre les problématiques que j'avais eues avec lui de son vivant. Donc des problématiques, par exemple la jalousie, par exemple, enfin je sais pas ce que vous pouvez avoir comme type de, enfin
comment ça la jalousie, je comprends pas.
Bah, par exemple la jalousie vis-à-vis d'autres femmes, des choses comme ça. Donc ça, par exemple, j'ai dû le résoudre à travers justement la rencontre avec sa petite amie. C'est-à-dire que moi j'étais quelqu'un d'assez jalouse à l'époque.
Tu l'étais encore après ça.
Et ben non, justement, du coup, on est obligé en fait de passer au-dessus de ça, puisque quand je me suis retrouvée à l'hôpital, j'ai vu une jeune fille qui attendait un peu éloignée devant la porte des visites. Et j'en ai déduit que c'était sa petite amie. Et donc, à un moment donné, bah là, en fait, quand on voit que la personne va probablement décéder, on se dit, en fait, la jalousie n'a plus aucun intérêt. Et enfin, ça perd son sens, quoi. On se dit, mais en fait, la personne, enfin, ça se trouve, elle n'est plus là demain. Et en fait, je l'aime tellement que finalement, la meilleure chose que je peux faire, c'est de respecter son choix et en fait, de respecter que à cet instant de sa vie, il avait décidé en fait de vivre cette histoire-là avec cette jeune femme-là. Donc, bah, je me suis levée, j'ai été voir cette jeune femme et puis je lui ai dit, bah, excuse-moi, mais voilà, enfin, je pense que tu es un tel. Elle m'a dit, oui, effectivement. Et toi, tu es Noémie. Je l'avais jamais rencontrée. J'ai dit, oui, on se connaît. Et donc, en fait, j'avais appris du coup qu'il avait parlé de moi à cette jeune femme et qu'elle me connaissait justement à travers mon compagnon, quoi.
Et cette période de deuil, t'as appris d'autres choses sur toi comme ça ?
Bah ouais, du coup, donc à mesure que le deuil effectivement se fait, on purge un petit peu, si je puis dire comme ça, toutes ces problématiques-là. Et du coup, ça nous pousse un petit peu à explorer les facettes de ce qu'on est, de notre personne. Et en fait, moi, j'ai vécu une espèce de phase de destruction totale de tout ce que j'étais, de mes repères, de toute la vision que je pouvais avoir du monde avant. N'avait plus du tout de sens avec ce que je venais de vivre. Et donc, du coup, il y a eu une phase de reconstruction, avec entre-temps une phase de flottement, évidemment. C'est là où il y a le risque, justement, de tomber dans des...
Est-ce que tu peux être un tout petit peu plus précise ? Qu'est-ce que tu as détruit ? Qu'est-ce que tu as reconstruit ?
Alors, tout ce qui est détruit, c'est par exemple les jugements de valeur qu'on peut avoir sur la vie. Alors, moi, j'étais quelqu'un de très... c'est noir, c'est blanc, il n'y avait pas de juste milieu. J'étais très impulsive, j'étais très sûre de certaines choses, très sûre de moi. Et puis, en fait, soudain, comme on perd cette sécurité de la vie, en fait, et ben on n'est plus sûr de rien. Donc, il y a le gris qui apparaît, la nuance.
Les nuances de gris.
Et puis, à tel point qu'en fait, moi, du coup, j'étais plus sûre de rien du tout, quoi. Donc, quand on me posait une question, je voyais la face A, la face B, et puis en fait, j'étais plus capable de trancher, quoi. Alors qu'avant, on me posait une question, bah, j'étais capable de trancher. J'étais là, bon, bah ouais, ok, c'est ça, c'est ça. Et puis là, en fait, j'étais du coup dans une nébuleuse où il n'y avait plus du tout de choses sûres, quoi.
Tu veux dire, c'était presque pathologique ou c'était...
Ouais, bah, carrément, parce que du coup, moi j'ai perdu aussi donc cette sensation de perdre un peu. On est mis à nu en fait, le cœur est mis à nu, donc il y a plus de carapace, c'est plus qu'une plaie béante et donc on a plus de protection. Et on a développé un espèce d'amour inconditionnel puisque du coup on a estompé, on a gommé les côtés sombres de la relation pour en faire quelque chose de merveilleux. Et donc du coup à un moment donné on atteint ce stade hyper bon, quoi, de la relation merveilleuse et magnifique, parce que forcément l'autre il est plus en face, donc il n'y a plus son mot à dire, donc tout est parfait. Voilà, il n'y a plus d'obstacles, donc c'est magnifique et l'être est magnifique. Et en fait, donc on n'a plus de protection également, donc tout ce qu'on vibre, c'est de l'amour pur. On a envie de partager avec l'autre, à un moment donné, ce stade qu'on a réussi, cette douleur qu'on a réussi à transmuter en amour pur. On a envie de le partager avec les autres et de le déverser sur les autres parce qu'on a tellement souffert qu'en fait on a envie de dire, non mais les gars, il y a d'autres choses bien plus belles qui existent aussi. Et le problème, c'est qu'à ce stade-là de la reconstruction, moi, je n'étais pas encore assez forte sur le fond. Donc, je vibrais encore quand même pas mal de manque en fond de la personne. Puisqu'évidemment, elle nous manque très fortement. On n'a plus cette présence physique, etc. Ce qui fait qu'on ouvre la porte à des gens, par exemple, avec des profils manipulateurs ou pervers narcissique, comme j'ai pu en faire l'expérience, parce que c'est des gens qui vont sentir cette faiblesse-là en vous, ouais. Et qui en plus ont trouvé le filon parce que vous êtes la nana qui est prête à tout, quoi. Donc qui est pleine d'amour et qui est capable de, en gros, de vous rincer, quoi, d'amour, quoi. Donc ces gens-là vont se nourrir l'ego, c'est une source pour nourrir leur ego, et moi, malheureusement, du coup, j'ai perdu pas mal de plumes avec des relations comme ça, où j'ai mis un moment avant de comprendre que le deuil, c'est aussi ça, c'est se retrouver soi et se reconstruire soi, et du coup ne plus mettre en fait la potentialité de bonheur à travers l'autre, mais finalement la mettre en soi et se construire soi et devenir un être complet et ne pas dépendre de l'autre. Et du coup on se découvre comme ça, l'être qu'on est, et on apprend à s'aimer et à intégrer toutes les facettes de ce qu'on est, dans le bien comme dans le mauvais. Et du coup on se reconstruit comme ça totalement, quoi.
Et là aujourd'hui, ça c'est aujourd'hui, t'as mis 10 ans pour
pour en arriver là,
avec des hauts et des bas. J'espère que ceux qui t'ont fait souffrir, c'est ceux qui sont morts, non?
pas à ma connaissance, mais bon, je leur souhaite pas non plus, parce que parce
c'est
qu'ils
des
m'ont
innocents
appris
qui
plein
sont
de
morts,
choses.
C'est ça.
Je sais pas s'ils étaient innocents, mais mais non, je leur
c'était
souhaite
quoi,
pas.
C'était quoi les autres qui sont décédés?
Alors,
Il
y a eu du funky, il y a eu du moins funky. Donc, en gros, il y a eu accident de la route, arrêt cardiaque pour le deuxième.
Ça, c'était après, pour le deuxième.
Donc, en fait, oui, ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, ils se sont suivis, quoi, les deux. Donc,
c'est-à-dire que le mec qui était sorti après, il est mort d'un arrêt cardiaque.
Oh là là.
Donc
celui-là, t'étais pas, encore amoureuse de ton.
Ouais, celui-ci, je suis sortie avec lui au moment de la première, phase de rupture avec mon compagnon. Et donc c'est quelqu'un que j'ai aimé, mais c'était pas du tout le même amour. C'était quelque chose d'un peu plus platonique, en fait. Et au moment où il est décédé, on n'était plus forcément en lien. Donc sa famille m'a recontactée parce qu'il savait que j'avais quand même joué un rôle dans sa vie, mais j'avais pas du tout la même implication émotionnelle avec cette personne-là au moment où c'est arrivé, quoi.
T'étais moins touchée et...
J'étais moins affectée, puis j'ai envie de dire, je commençais à avoir un peu d'expérience. Donc j'avais eu l'expérience du premier, donc je suis arrivée en fait au moment de la cérémonie, et j'ai dit bon bah les gars, je pense qu'à un moment donné on va faire comme la pizza, hein, la 11e gratuite, et puis je viendrai avec un gâteau d'anniversaire aussi, je pense, parce qu'en plus, donc le côté un peu rigolo, donc évidemment je me permets d'en rire maintenant, mais sur le moment je rigolais pas, c'est que donc ces deux personnes qui sont décédées se connaissaient, donc il y avait des amis en commun entre les deux, et donc il y en a un qui m'a connue au premier enterrement et au deuxième, et donc il m'a vu au deuxième, il a fait non mais franchement toi, enfin carrément t'as
ça
pas de chance,
quoi.
En fait,
mais oui. Voilà, tu...
donc voilà.
Mais à ce moment-là, t'étais encore amoureuse de.
J'ai été toujours amoureuse du premier, quoi. En fait, lui, il m'a jamais
toujours,
quitté.
Là,
j'ai eu beau.
Aujourd'hui, quoi. Enfin.
Ouais. J'ai eu beau avoir d'autres histoires entre temps. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais réussi à faire mon chemin et à me dire bon ok, bon voilà. Enfin, j'ai compris, c'est bon. Alors, j'ai beau essayer d'avoir d'autres histoires, j'en reviens toujours à cette personne-là. Donc il y a vraiment quelque chose. Mais c'était quelque chose que j'avais pressenti au moment de notre rencontre, en fait. J'avais pressenti que cette personne-là allait avoir une importance extrême dans ma vie, et donc elle en a eu en rentrant et en sortant, quoi. Pour le coup.
Ah oui, non mais c'est.
Elle a fait une sortie magistrale, quoi.
Et les mecs que tu rencontres, ils ressemblent à celui qui a disparu, le premier, ou est-ce qu'ils ressemblent
pas du tout,
non?
Pas du tout, parce
tu recherches pas quelque chose chez...
Alors oui, j'ai beaucoup recherché pendant un temps, c'est ce qui a fait que soit je trouvais pas du tout, soit je suis tombée dans des travers. Donc par exemple, pour la petite anecdote, j'ai rencontré un homme à un moment donné en me baladant qui vient vous interpeller sur la lutte contre le sida ou Greenpeace, etc. Et je trouvais qu'il ressemblait fortement à mon compagnon, mais peut-être avec 10 ans de plus. Je me suis dit waouh, s'il avait vieilli en fait avec 10 ans de plus, vraiment il ressemblerait à ça, quoi.
Ah oui, du coup tu l'as dragué, quoi.
Je l'ai dragué, et en fait donc il m'a dit ok, il m'a invité à une soirée, et en fait à un moment donné, en plein milieu de la soirée, le mec m'a annoncé qu'il était schizophrène, quoi. Donc, ouais. Donc en fait là on se fait bon ok, donc j'ai compris le message, je vais arrêter de chercher son doublon, je vais clairement passer à autre chose, quoi. Donc voilà, c'est des petites leçons. Après la vie, elle vous met des petites pichenettes et puis vous faites bon ok, c'est bon, okay.
Du coup t'as refait l'histoire déjà, comme s'il n'était pas décédé,
si je m'étais refait l'histoire, que ça sert à rien, et puis en fait on n'aura jamais la réponse, donc non. Et puis comme je dis, voilà, c'est vrai que finalement ça aurait pu fonctionner comme ça n'aurait pu finalement ne pas fonctionner aussi. Hein. On n'a pas de garantie. Donc.
dans les histoires, les relations que tu as avec les mecs après, tu en parles quand tu en parles?
Alors,
tu en parles de ça, du enfin pas du poids mais du fait que voilà, t'as ton premier mec qui est mort. Puis
au départ j'étais assez transparente avec ça, donc j'en parlais assez rapidement.
Ouais.
Sauf que évidemment la réaction en face, elle est un petit peu ok, donc je vais aller contacter une assurance vie.
Ça met la pression directe.
Bah, c'est-à-dire que les mecs sont une sorte de fatalisme. Quoi. Ils se disent, bon, ok, c'est là, enfin voilà, quoi. En gros, si je sors avec elle, je vais mourir. Quoi. Ouais, donc,
tu leur dis tout de suite, genre, j'ai connu plusieurs.
Bah, assez rapidement, ouais, dans la rencontre. Alors, au début, mais parce qu'en fait, finalement, je m'en foutais un peu dans le fond de ces mecs-là que je rencontrais derrière. Je savais que c'était voué à l'échec d'entrée. Donc, en fait, il n'y avait pas d'enjeu, quoi. Donc, à un moment donné, donc, je le larguais le truc en toute transparence, quoi. Et forcément,
tu
bah, la
disais,
réaction...
bon, tu vois, genre, qu'est-ce qui va se passer, quoi.
Ouais, voilà. C'est ça, tu vois, enfin, je te largue le paquet, puis tu, voilà, tu fais
genre,
comme
si
tu veux.
Genre, si t'es toujours là, bah, c'est cool.
C'est ça, voilà.
C'est
pas grave.
Et puis après, bon, je me suis dit, bon, il faut quand même que, enfin, je sens que ça passe pas, donc.
Pour enrober un peu l'histoire.
Voilà, j'ai peut-être ajouté une petite touche d'humour, donc j'étais là, bah, écoute. Si tu veux, voilà, enfin, je sais pas, prends une bonne assurance et puis on se recontacte, quoi, tu vois. Mais bon, je sentais que ça passait toujours pas.
parce que oui, c'est un sujet sur lequel faire de l'humour est un peu délicat.
C'est ça. Et puis bon, après là, je me suis dit, bon, définitivement, clairement, je pense que si demain je rencontre quelqu'un, alors bon, c'est un peu, enfin.
Tu le diras pas.
Je pense que j'en parlerai pas tout de suite. Si vraiment à un moment donné il cherche à savoir des choses, je le cacherai pas. Mais c'est pas quelque chose que je vais amener sur la table à un moment donné dans les premières rencontres où on commence à s'ouvrir un peu à l'autre, on se raconte un peu nos vies. Je pense que je larguerai pas le truc là à ce moment-là. Quoi.
Alors attends, on en a eu deux décès, il nous manque le troisième et le quatrième.
Mais j'ai quand même eu la chance, cela dit, pour finir, de rencontrer quelqu'un qui a entièrement accepté ça et qui a été hyper cool avec toute cette histoire, qui est toujours vivant.
Que t'as rencontré dans les 10 ans.
Ouais. Donc c'est plus.
Qui a été un de tes petits, enfin un des
derniers que
quoi.
J'ai fréquenté, bah c'est le dernier que j'ai fréquenté en fait, hein, et qui est un mec vraiment que j'adore, qui est super cool et qui vraiment lui il a tout pris de mon passé quoi, hein, donc il a fait ok, je prends le package et voilà donc ça c'était cool. Il y a quand même des mecs voilà qui ont vachement de cran et qui voilà qui disent oh, j'ai pas peur quoi, voilà, donc c'est bien. Donc alors après pour répondre du coup à ta question, donc il y a le tout premier, en réalité j'étais assez jeune, j'étais en sixième, c'était vraiment une toute première histoire d'amour. J'ai appris que lui, du coup, il est décédé dans une bagarre, donc il a pris un coup de couteau mal placé. Donc,
mais beaucoup plus tard.
Je l'ai appris, ouais, peut-être, je sais pas, un an après, deux ans après.
Quand t'étais en quatrième, un truc comme ça, ou enfin.
Ouais, enfin, je sais plus parce que c'était enfin, c'était assez, c'était vraiment ma toute première initiation, quoi. Voilà. Après, donc, il y a eu l'accident de la route. Après, l'arrêt cardiaque et le dernier, c'était également un accident de la route. Voilà. Et puis les deux potentiels qui ont voulu sortir avec moi, donc il y en a un, c'était un accident de kayak, il est tombé, il s'est cogné la tête sur une pierre, il s'est noyé. Voilà.
Comment ça, les deux potentiels qui ont...
Bah, en fait, c'est deux personnes qui voulaient également sortir avec moi, mais éconduit, voilà. Et qui sont décédées également.
Donc il n'y en a pas que quatre, il y en a six. Ah,
oui. Voilà. Ouais. Et l'autre, pareil.
Et là, tu vas nous dire qu'en fait, il y en a en huit. Et en fait,
bah, écoute,
y en a
du coup, voilà, je check un peu sur Facebook, tu vois, je me dis, bon, est-ce qu'il n'y en a pas un autre, enfin, est-ce qu'ils sont toujours là?
Du coup, quel est toi, par rapport à ça, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, mais quand même, ça fait beaucoup?
Ouais, à un moment donné, on se pose quand même grave de questions.
Bah ouais,
je sais pas, est-ce qu'il y a un message à prendre là, enfin, ouais. J'en fais quoi de tout ça, bon je suis pas rentrée dans l'extrême de me dire bon enfin je suis envoûtée ou enfin quelqu'un me jette un sort ou quoi, ouais. Mais c'est vrai que clairement j'ai eu une phase où je me suis dit en fait je pense que c'est mon chemin de croix. Je suis damnée et en fait je suis une meuf damnée et vouée à prendre des leçons de vie mais à payer le prix cher. Ouais. Alors certes du coup j'ai un cadeau qui est vachement beau et des belles leçons de vie et magnifique, mais j'ai eu un moment quand même vraiment de dépit et d'abattement où je me suis dit putain ma vie quand même c'est de la merde quoi.
Après, peut-être que c'est passé et que c'est fini. Ouais.
Ah oui non mais maintenant j'ai plus du tout le même regard
Si t'es damnée peut-être qu'il faut penser à l'exorcisme.
Ouais alors non j'avais pas envie de rentrer dans ce truc là. Mais non, non, mais ça, après, voilà, c'est encore une fois, c'est une phase que j'ai eue et j'en suis plus du tout là aujourd'hui et j'ai plus du tout le même regard. Et bien au contraire, j'ai un regard très positif là-dessus.
Sur ceux que tu as rencontrés dans ta vie, ton petit quatrième, etc., est-ce que le fait qu'ils aient disparu, est-ce qu'ils te manquent quelque part aussi? Est-ce que tu te dis pas, mince, j'aurais pu les recroiser un jour ou quelque chose? Non, ils te
manquent. Alors, ça va être cruel, mais pas du tout. Il y a vraiment voilà mon histoire ou sur laquelle on s'est plutôt focalisé qui a été très poignante pour moi et qui m'a profondément marquée, mais les autres je les ai vraiment pris j'ai pas de manque vis-à-vis de ces personnes.
Pourquoi je te dis ça, parce que est-ce que c'est peut-être la forme de décès? En fait, j'ai ma petite amie du lycée qui s'est faite assassiner au Bataclan. Elle me manque.
D'accord.
Et je me demande si c'est pas parce que justement, c'est pas un accident, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais.
Mais elle te manquait avant?
Non, enfin, je veux dire, pas avant du tout. Du tout.
Ouais.
Et le fait que ce soit dans ces conditions-là,
c'est brutal. Je pense que ça, c'est très personnel, ton ressenti et la façon dont tu vis la disparition. Après, ça dépend aussi, effectivement, le deuil, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Effectivement, la façon dont la personne part, ça peut être vraiment aussi... parce que ça ajoute des traumas, en plus, c'est pas un deuil classique. Donc ça, ça peut rentrer en ligne de compte. Et il y a aussi le statut dans lequel tu étais en relation avec cette personne-là qui peut beaucoup jouer aussi. Donc si par exemple tu as quitté la personne est partie et morte et en fait tu étais en froid avec elle, le deuil va être assez compliqué parce que du coup il y a plein de choses que t'as pas résolues avec cette personne et en gros elle est partie mais t'étais pas en paix avec cette personne. Donc il y a vraiment un gros travail à faire sur la relation avant de pouvoir l'épurer et toi de te sentir apaisé, quoi. Donc c'est vrai que de savoir où t'en étais avec cette personne-là à l'instant T dans ta vie, ça peut être déterminant sur la façon dont tu réceptionnes en gros la nouvelle, quoi. Et donc, sur le cheminement après que tu fais par rapport à cette annonce, quoi.
Après, c'est pas pour autant que tu vas forcément régler le problème si elle est encore en vie.
Oui, non, c'est clair, parce que la preuve
peut-être
en est...
juste tu te dis,
c'est ça,
je règle pas le problème, mais bon, au moins, la personne, au moins, elle est là, et puis peut-être qu'un jour, je réglerai le problème. Ou quoi.
Mais t'as raison, puisque nous, on a eu quand même vachement de temps pour résoudre nos problèmes, et en fait, on a été deux têtes de mule, donc finalement, alors qu'on aurait eu l'occasion, mais bon, après, on l'a vécu comme on l'a vécu, mais oui, tout à fait, effectivement, les gens peuvent même, on peut ne pas régler les choses et tout, même de leur vivant. Quoi.
Ouais, ça veut peut-être dire que faut saisir les choses dès qu'elle se présente, il faut le faire sans hésiter, quoi.
Oui, c'est ça. Après, ça permet effectivement de prendre la pleine mesure de ce qu'est la vie, quoi, en fait. Et du coup, de connaître la noirceur de la vie, ça permet d'apprécier, du coup, par contraste, tous les petits moments, en fait. Hein, et ça devient justement des petits moments de bonheur. C'est très banal ce que je dis, mais du coup, on le vibre vraiment et on le ressent vraiment, quoi, quand on vit ce genre de choses. Voilà.
Dan, tu as une dernière question ?
Oui, toujours. Ah.
C'est vrai, il a toujours des questions.
Toujours, mais j'en ai plusieurs. Mais j'en ai une en particulier, c'est est-ce que tu parlais donc de ces hommes que tu as rencontrés aussi qui t'ont manipulé?
Ouais.
Entre la première histoire que tu as eue donc avec ce jeune homme qui est décédé et aujourd'hui, est-ce que tu n'avais pas envie justement qu'eux aussi ils décèdent?
Non, c'est pas du genre. Tout. Non, j'ai à aucun moment.
Non, mais après, je dis ça un peu sur le ton de la rigolade, qu'à un moment.
Mais j'aurais pu,
Pourquoi pas eux? Pourquoi le mec que j'ai aimé et pas eux qui m'ont cassé les couilles? Enfin, tu vois.
Alors, effectivement, j'ai des fois, quand j'en rigolais, il y a une époque où je disais, mais putain, en fait, merde, quoi. Pourquoi, effectivement, lui? Ouais. En gros, si tu m'avais demandé de choisir dans toute une liste, je t'aurais dit, tu prends tous les autres, mais pas lui.
Pas lui,
voilà. Donc, oui, effectivement, il y a eu un moment donné où, voilà. Alors sans forcément souhaiter la mort des autres, on joue un petit peu à ce jeu cruel de dire si tu devais en choisir un,
ce sera plutôt lui.
Voilà, c'est ça. Et en fait, effectivement, si tu devais en sauver un, voilà. Mais voilà, sans forcément effectivement souhaiter la mort des autres, quoi.
Bon, merci beaucoup. On arrive à la fin de cet épisode. Alors, je vais poser une petite question. Cette fois, c'est pour les gens qui nous écoutent. On va vous poser une question. C'est quelque chose qu'on fait désormais dans les épisodes. Vous pouvez nous répondre soit dans les commentaires sur YouTube et Facebook, soit sur Instagram. Je pense qu'on mettra un visuel sur Instagram et on copiera vos réponses en question, en story. Donc parce que voilà, vous savez que nous, on est très curieux et on sait que vous aussi, auditeurs, vous êtes très curieux de connaître les réponses de chacun. Donc c'est une question que Noémie nous a proposée en début d'épisode. C'est est-ce qu'on peut encore aimer? Oui, bah oui.
Parce que oui, on va pas se cacher. Elle travaille pour nous. Voilà, c'est bon. Ouais.
Nous, on est très honnête. Hein, si ça vient de nous, c'est nous. Si c'est,
bon, merci Noémie. Hein.
Merci Noémie. Ouais, est-ce qu'on peut encore aimer après avoir vécu ce genre de choses? Toi, quelle est ta réponse à toi?
Eh bien, évidemment, non, pas du tout. Hein. Voilà, c'est foutu. Non, je plaisante. Je plaisante. Non, évidemment. Évidemment, alors, c'est une question que je me suis longtemps posée parce que bah, je me suis retrouvée voilà, où je ressentais plus grand-chose pendant des années. Donc, ma question toujours, c'était, mais enfin, mince, est-ce qu'à un moment donné, je vais pouvoir à nouveau être amoureuse, quoi? Et la réponse, elle est plutôt positive. Donc, oui, ça m'a pris beaucoup de temps, mais je suis retombée amoureuse plus tard, des années plus tard. Voilà, donc c'est possible. C'est possible, mais ça demande du travail.
Bah, du coup, mettez-nous un peu vos réponses, ou même vos partages. Hein, si vous souhaitez partager des choses, des fois, il y a des choses dont on aimerait partager des histoires et il n'y a personne pour les entendre. Bah, n'hésitez pas, profitez de cet espace. Envoyez-nous des messages et puis on partagera ceux qui veulent être partagés. Et puis laissez des commentaires et on crée de la discussion. Hein, c'est aussi ça qui nous intéresse. Enfin, nous, on la crée entre nous, c'est chouette, mais on peut aussi la créer tous ensemble. Donc voilà, donc c'est fini pour cet épisode. Merci, merci Noémie.
Merci à vous.
Noémie.
Merci les gars. Je vais donc maintenant faire le petit speech en ce qui concerne notre Tipeee.
Oui, hein, c'est important.
Tu veux le faire ou tu veux que...
Bah
que
non, mais tu le fais mieux que moi. Mais
Non, mais parce que c'est vrai qu'on a mis en place une page Tipeee et Noémie nous a fait remarquer que c'était pas forcément simple d'y participer. Donc le type, pour expliquer pratiquement ce que c'est que ça consiste en nous donner un petit quelque chose. Ça peut être 1 euro, 10 euros, 20 euros, ça peut être combien vous voulez. Et soit vous le donnez ponctuellement, donc une fois, soit vous le donnez
mensuellement,
par abonnement. Donc effectivement, on peut donner moins, mais par abonnement. Donc le Tipeee,
ça nous
permet... On peut donner
plus aussi par abonnement.
On peut donner plus, oui. Bah, on a quelqu'un qui nous a donné 1000 euros par abonnement.
Par mois.
Oui. Ah, j'ai oublié de vous prévenir.
C'est un...
Merci Pascal.
Et en fait, donc le Tipeee, nous, à quoi il nous sert? Déjà, il nous sert pour... on a mis plusieurs paliers parce qu'on a plusieurs objectifs. Donc le premier objectif, c'est de qui est atteint. Et on remercie, et je vais remercier les tipeurs qui nous ont permis d'atteindre cet objectif. Donc notre premier objectif, c'est d'arriver à financer une petite régie qui nous permet de recevoir les invités. Hein, tu as vu?
Ce matin, il y avait des croissants.
Bon, après, ouais, non, c'est génial. Elle qui a amené les croissants.
C'est pour ça que je le dis, je sais bien.
Donc, surtout, c'était sa manière pas de tiper. Si vous venez emmener les croissants, quoi.
Donc, d'ailleurs, je tiens à remercier nos tipeurs. Hein, actuellement, alors, il y a un petit décalage, hein, forcément, mais bon, actuellement, c'est Ornella, Xavier, Mathilde, Rio, Mathieu, Lolo et Jimmy. Merci à vous. Et,
merci beaucoup.
Et on rajoutera
merci,
à ceux qui...
Merci, et puis rajoutez-vous.
Il y a un petit décalage entre le moment où vous tipez et les
remerciements. Même ne serait-ce que 5 euros une fois, ou alors peut-être 1 euro par mois pendant 6 mois.
Ouais, parce que donc nos objectifs, donc il y a le premier, il y a la régie, on a pour objectif aussi de rémunérer notre community management, ce qui nous permettrait d'être plus présent encore sur les réseaux et de manière encore... encore plus, hein. Nous on fait ce qu'on peut aujourd'hui et on est déjà bien entouré, mais le plus le mieux. Et on a un troisième objectif qui est vraiment notre objectif principal qu'on est en train de mettre en place, hein. Je vous en ai parlé par WhatsApp, on va essayer d'aller à Lyon bientôt. Ouais. Enfin, il y a des choses qui se mettent en place vers Lyon.
Le tour de la France, c'est un grand mot, mais d'aller dans plusieurs villes, parce que c'est vrai qu'on a plein d'auditeurs en fait dans plein de villes de France et du coup qui peuvent pas forcément participer, enfin des auditrices en l'occurrence.
Voilà. Et du coup, on aimerait faire ça. Donc, soit y aller, soit en faire venir. Hein. On peut aussi envisager ça. Mais en tout cas, tout ça a un coût. De toute façon, je sais pas, on gagne pas d'argent avec ce podcast.
Pas d'année, moi, en tout cas.
Non, mais je veux dire, on peut pas se permettre de faire venir les gens à nos frais. C'est un peu compliqué. Donc, le Tipeee nous permettrait de faire évoluer ce podcast et dans sa forme et dans son fond. Donc, si vous y participez, c'est hyper chouette, c'est hyper sympa. Si vous n'y participez pas, bah, franchement, c'est pas bien. On va vous envoyer Noémie. Voilà. Vous pouvez nous suivre sur votre réseau préféré, hein, bien entendu. On est partout sur Instagram, Facebook, YouTube. Vous pouvez nous écouter sur SoundCloud, sur les applis de podcast. Vous pouvez laisser 5 étoiles, vous pouvez laisser des commentaires. Vous pouvez faire tout un tas de choses. Vous pouvez parler de
nous. Écrire.
Nous écrire.
Sur Facebook. Alors, Insta,
vous pouvez continuer à parler de nous autour de vous. On sait que vous le faites puisqu'on a de plus en plus d'auditeurs, donc c'est génial. Et évidemment, vous pouvez écouter ou réécouter les anciens épisodes. Et j'ai fini. Je tiens à remercier Binge Audio, hein, le studio qui nous enregistre, qui nous distribue. Merci Binge.
Ouais. Merci Mitch. Thank you, Mitch.
Merci, Mitch, bien sûr.
Il est en décalage horaire, là. C'est pour ça qu'il réagit pas, mais...
Il est à l'heure de Las Vegas. Allez, voilà. C'est parti. On se retrouve au prochain épisode.
Salut. Ciao, ciao.
Salut.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.